Asi a D, Eyoub a 2. Eyoub, le 4 décembre 1876. On m'avait dit, elle est arrivée. Et depuis 2 jours, je vivais dans la fièvre de l'attente. Ce soir, avait dit Khalidja, la vieille négresse qui, à Salonique, accompagnait la nuit Asiadé dans sa barque et risquait sa vie pour sa maîtresse, ce soir, un caïque l'amènera à l'échelle des Youb devant ta maison. Et j'attendais là depuis 3 heures. La journée avait été belle et lumineuse. Le va-et-vient de la Corne d'Or avait une activité inusitée. À la tombée du jour, des milliers de caïques abordaient à l'échelle des Youb, ramenant dans leur quartier tranquille les Turcs que leurs affaires avaient appelés dans les centres populeux de Constantinople, à Galata ou au Grand Bazar. On commençait à me connaître, à Eyoub, et à dire « Bonsoir, Arif, qu'attendez-vous donc ainsi ?» On savait bien que je ne pouvais pas m'appeler Arif et que j'étais un chrétien venu d'Occident, mais ma fantaisie orientale ne portait plus ombrage à personne, et on me donnait quand même ce nom que j'avais choisi. Portia, flambeau du ciel, Portia, ta maison, c'est moi. Alfred de Musset, Portia. Le soleil était couché depuis 2 heures, quand un dernier caïque s'avança seul, parti d'Azarkapou. Samuel était aux avirons. Une femme voilée était assise à l'arrière sur des coussins. Je vis que c'était elle. Quand ils arrivèrent, la place de la mosquée était devenue déserte et la nuit froide. Je pris sa main sans mot dire et l'entraînai en courant vers ma maison, oubliant le pauvre Samuel qui resta dehors. Et quand le rêve impossible fut accompli, quand elle fut là, dans cette chambre préparée pour elle, seule avec moi, derrière 2 portes garnies de fer, oh, je ne sus que me laisser tomber près d'elle, embrassant ses genoux. Je sentis que je l'avais follement désirée, j'étais comme anéanti. Alors j'entendis sa voix. Pour la première fois, elle parlait, et je comprenais, ravissement encore inconnu. Et je ne trouvais plus un seul mot de cette langue turque que j'avais apprise pour elle. Je lui répondais dans la vieille langue anglaise des choses incohérentes que je n'entendais même plus. « Severin, Seni, Lotim !»« Je t'aime, Loti, » disait-elle, « je t'aime !» On me les avait dit avant Asiadé, ces mots éternels. Mais cette douce musique de l'amour frappait pour la première fois mes oreilles en langue turque. Délicieuse musique que j'avais oubliée. Est-ce bien possible que je l'entende encore partir avec tant d'ivresse du fond d'un cœur pur de jeune femme? Tellement qu'il me semble ne l'avoir entendue jamais, tellement qu'elle vibre comme un chant du ciel dans mon âme blasée. Alors je la soulevai dans mes bras, je plaçai sa tête sous un rayon de lumière pour la regarder, et je lui dis, comme Roméo, « Répète encore, redis-le !» Et je commençais à lui dire beaucoup de choses qu'elle devait comprendre. La parole me revenait avec les mots turcs, et je lui posais une foule de questions en lui disant, « Réponds-moi !» Elle me regardait avec extase, mais je voyais que sa tête n'y était plus et que je parlais dans le vide. « Asiadé, lui dis-je, tu ne m'entends pas ?»« Non, » répondit-elle. Et elle me dit d'une voix grave, ces mots doux et sauvages, « Je voudrais manger les paroles de ta bouche. » Sénim la vie mec stérim. Loti, je voudrais manger le son de ta voix. » Eyyoub, décembre 1876. Asiyadée parle peu. Elle sourit souvent mais ne rit jamais. Son pas ne fait aucun bruit. Ses mouvements sont souples, ondoyants, tranquilles et ne s'entendent pas. C'est bien là cette petite personne mystérieuse qui le plus souvent s'évanouit quand paraît le jour et que la nuit ramène ensuite à l'heure des djinns et des fantômes. Elle tient un peu de la vision, et il semble qu'elle illumine les lieux par lesquels elle passe. On cherche des rayons autour de sa tête enfantine et sérieuse, et on en trouve en effet, quand la lumière tombe, sur certains petits cheveux impalpables, rebelles à toutes les coiffures, qui entourent délicieusement ses joues et son front. Elle le considère comme très inconvenant, ses petits cheveux, et passe chaque matin 1 heure en effort tout à fait sans succès pour les aplatir. Ce travail et celui qui consiste à teindre ses ongles en rouge-orange sont ses deux principales occupations. Elle est paresseuse, comme toutes les femmes élevées en Turquie. Cependant, elle sait broder, faire de l'eau de rose et écrire son nom. Elle l'écrit partout, sur les murs, avec autant de sérieux que s'il s'agissait d'une opération d'importance, et pointe tous mes crayons à ce travail. Asiyadeh me communique ses pensées plus avec ses yeux qu'avec sa bouche. Son expression est étonnamment changeante et mobile. Elle est si forte en pantomime du regard qu'elle pourrait parler beaucoup plus rarement encore ou même s'en dispenser tout à fait. Il lui arrive souvent de répondre à certaines situations en chantant des passages de quelques chansons turques, et ce mode de citation, qui serait insipide chez une femme européenne, a chez elle un singulier charme oriental. Sa voix est grave, bien que très jeune et fraîche. Elle la prend du reste toujours dans ses notes basses, et les aspirations de la langue turque la font un peu rauque quelquefois. Asiyadeh est âgée de 18 ou 19 ans. Elle est capable de prendre elle-même brusquement des résolutions extrêmes, et de les suivre après, coûte que coûte, jusqu'à la mort. Autrefois, à Salonique, quand il fallait risquer la vie de Samuel et la mienne, pour passer auprès d'elle seulement 1 heure, j'avais fait ce rêve insensé, habiter avec elle quelque part en Orient, dans un recoin ignoré où le pauvre Samuel aussi viendrait avec nous. J'ai réalisé à peu près ce rêve, contraire à toutes les idées musulmanes, impossible à tous égards. Constantinople était le seul endroit où pareille chose put être tentée. C'est le vrai désert d'hommes dont Paris était autrefois le type, un assemblage de plusieurs grandes villes où chacun vit à sa guise et sans contrôle, où l'on peut mener de front plusieurs personnalités différentes, Lotti, Arif et Marchetto. Laissons souffler le vent d'hiver, laissons les rafales de décembre ébranler les ferrures de notre porte et les grilles de nos fenêtres. Protégés par de lourds verrous de fer, par tout un arsenal d'armes chargées, par l'inviolabilité du domicile turc, assis devant le brasero de cuivre, oh petite Asiyadeh, qu'on est bien chez nous. Lotti à sa sœur à Brightbury. Chère petite sœur, j'ai été dur et ingrat de ne pas t'écrire plus tôt. Je t'ai fait beaucoup de mal, tu le dis et je le crois. Malheureusement, tout ce que j'ai été écrit, je le pensais et je le pense encore. Je ne puis rien maintenant contre ce mal que je t'ai fait. J'ai eu tort seulement de te laisser voir au fond de mon cœur, mais tu l'avais voulu. Je crois que tu m'aimes, tes lettres me le prouveraient à défaut d'autres preuves. Mais moi aussi je t'aime, tu le sais. Il faudrait m'intéresser à quelque chose, dis-tu, et à quelque chose de bon et d'honnête, et de le prendre à cœur. Mais j'ai ma pauvre vieille mère, elle est aujourd'hui un but dans ma vie, le but que je me suis donné à moi-même. Pour elle, je me compose une certaine gaieté, un certain courage. Pour elle, je maintiens le côté positif et raisonnable de mon existence, je reste loti, officier de marine. Oh, je suis de ton avis, je ne connais pas de chose plus repoussante qu'un vieux débauché qui s'en va de fatigue et d'usure et qu'on abandonne. Mais oh, je ne serai point cet objet-là. Quand je ne serai plus bien portant, ni jeune, ni aimé, c'est alors que je disparaîtrai. Seulement, tu ne m'as pas compris. Quand j'aurai disparu, je serai mort. Pour vous, pour toi, à mon retour, je ferai un suprême effort. Et quand je serai au milieu de vous, mes idées changeront. Si vous me choisissez une jeune fille que vous aimiez, je tâcherai de l'aimer, de me fixer pour l'amour de vous, dans cette affection-là. Puisque je t'ai parlé d'Asiade, je puis bien te dire qu'elle est arrivée. Elle m'aime de toute son âme et ne pense pas que je puisse me décider à la quitter jamais. Samuel est revenu aussi. Tous deux m'entourent de tant d'amour que j'oublie le passé, les ingrats, un peu aussi les absents. Peu à peu, de modeste qu'elle était, la maison d'Arif Effendi est devenue luxueuse. Des tapis de Perse, des portières de Smyrne, des faïences, des armes. Tous ces objets sont venus un par un, non sans peine, et ce mode de recrutement leur donne plus de charme. La roulette a fourni des tentures de satin bleu brodées de roses rouges, des frocs du sérail, et les murailles, qui jadis étaient nues, sont aujourd'hui tapissées de soie. Ce luxe, caché dans une masure isolée, semble une vision fantastique. Ziyadé aussi apporte chaque soir quelque objet nouveau. La maison de Medine Effendi est un capharnaüm rempli de vieilles choses précieuses, et les femmes ont le droit, dit-elle, de faire des emprunts aux réserves de leur maître. Elle reprendra tout cela quand le rêve sera fini et ce qui est à moi sera vendu. Qui me rendra ma vie d'Orient, ma vie libre et en plein air, mes longues promenades sans but et le tapage de Stamboul? Partir le matin de l'Atmaïdan pour aboutir la nuit à Eyoub, faire un chapelet à la main la tournée des mosquées, s'arrêter à tous les khaledjis, aux turbés, aux mausolées, aux bains et sur les places, boire le café de Turquie dans les microscopiques tasses bleues à pied de cuivre, s'asseoir au soleil et s'étourdir doucement la fumée d'un narguilé, causer avec les derviches ou les passants, être soi-même une partie de ce tableau plein de mouvements et de lumière, être libre, insouciant et inconnu, et penser qu'au logis, la bien-aimée vous attend le soir. Quel charmant petit compagnon de route que mon ami Hakmet, gai ou rêveur, homme du peuple et poétique à l'excès, riant à tout bout de champ et dévoué jusqu'à la mort. Le tableau s'assombrit à mesure qu'on s'enfonce dans le vieux Stamboul, qu'on s'approche du saint quartier des Youbes et des grands cimetières. Encore des échappées sur la nappe bleue de Marmara, les îles ou les montagnes d'Asie, mais les passants rares et les cases tristes, un sceau de vétusté et de mystère, et les objets extérieurs racontant les histoires farouches de la vieille Turquie. Il est nuit close, Le plus souvent, quand nous arrivons à Eyoub, après avoir dîné n'importe où, dans quelqu'une de ces petites échoppes turques où Archmed vérifie lui-même la propreté des ingrédients et en surveille la préparation. Nous allumons nos lanternes pour rejoindre le logis, ce petit logis si perdu et si paisible, dont l'éloignement même est un des charmes. Mon ami Archmet a 20 ans, suivant le compte de son vieux père Ibrahim, 22 ans, suivant le compte de sa vieille mère Fatma. Les Turcs ne savent jamais leur âge. Physiquement, c'est un drôle de garçon, de petite taille, bâti en Hercule. Pour qui ne le saurait pas, sa figure maigre et bronzée ferait supposer une constitution délicate. Tout petit nez aquilin, toute petite bouche, petits yeux tour à tour pleins d'une douceur triste ou pétillants de gaieté et d'esprit, dans l'ensemble un attrait original. Singulier garçon, gai comme un oiseau, les idées les plus comiques exprimées d'une manière tout à fait neuve, sentiments exagérés d'honnêteté et d'honneur, ne sait pas lire et passe sa vie à cheval, le cœur ouvert comme la main, la moitié de son revenu est distribuée aux vieilles mendiantes des rues. 2 chevaux qu'il loue au public composent tout son avoir. Ahmed a mis 2 jours à découvrir qui j'étais et m'a promis le secret de ce qu'il est seul à savoir, à condition d'être à l'avenir reçu dans l'intimité. Peu à peu, il s'est imposé comme ami et a pris sa place au foyer. Chevalier servant d'Asiade qu'il adore, il est jaloux pour elle, plus qu'elle, et m'épie à son service avec l'adresse d'un vieux policier. Prends-moi donc pour domestique, dit-il un beau jour, au lieu de ce petit Youssouf qui est voleur et malpropre. Tu me donneras ce que tu lui donnes, si tu tiens à me donner quelque chose. Je serai un peu domestique pour rire, mais je demeurerai dans ta case, et cela m'amusera. Youssouf reçut le lendemain son congé, et Archmed prit possession de la place. Un mois après, d'un air embarrassé, j'offris 2 mejidjiers de salaire à Ahmed, qui est la patience même. Il entra dans une colère bleue et enfonça 2 vitres qu'il fit le lendemain remplacer à ses frais. La question de ses gages se trouva réglée de cette manière. Je le vois un soir, debout dans ma chambre et frappant du pied. « Sen shaksai tan loti, an lamadum seni. » Enfin, toi, beaucoup le diable, loti, tu es très malin, loti, je comprends pas qui tu es. Son bras agitait avec colère sa large manche blanche. Sa petite tête faisait danser furieusement le gland de soie de son fez. Il avait comploté ceci avec Asiade pour me faire rester, m'offrir la moitié de son avoir, 1 de ses chevaux, et je refusais en riant. Et pour cela, j'étais tchok-chaiten et incompréhensible. À dater de cette soirée, je l'ai aimé sincèrement. Chère petite Asiade, elle avait dépensé sa logique et ses larmes pour me retenir à Stamboul. L'instant prévu de mon départ passait comme un nuage noir sur son bonheur. Et quand elle eut tout épuisé, « Benim John Zenim, Loti, mon âme est à toi, Loti. Tu es mon Dieu, mon frère, mon ami, mon amant, mais quand tu seras parti, ce sera fini de Ziyadé. Ses yeux seront fermés, Asiade sera morte. Maintenant, fais ce que tu voudras, toi, tu sais. Toi, tu sais, phrase intraduisible qui veut dire à peu près cela. Moi, je ne suis qu'une pauvre petite qui ne peut pas te comprendre. Je m'incline devant ta décision et je t'adore. Quand tu seras parti, je m'en irai au loin sur la montagne et je chanterai pour toi ma chanson. Childenlar, Jinler, Kabyanlar, Lusmanlar, Arsenalar, etc. Les diables, les djinns, les tigres, les lions, les ennemis passent loin de mon ami. Je m'en irai mourir de faim sur la montagne en chantant ma chanson pour toi. Et suivez la chanson, chantée chaque soir d'une voix douce, chanson longue, monotone, composée sur un rythme étrange avec les intervalles impossibles et les finales tristes de l'Orient. Quand j'aurai quitté Stamboul, quand je serai loin d'elle pour toujours, longtemps encore, j'entendrai la nuit la chanson d'Aziyadé. Aloti de sa sœur, Bridebouret, décembre 1876. Cher frère, je l'ai lu et relu ta lettre. C'est tout ce que je puis demander pour le moment. Et je puis dire comme la Sulamite voyant son fils mort, tout va bien. Ton pauvre cœur est plein de contradictions, ainsi que tous les cœurs troublés qui flottent sans boussole. Tu jettes des cris de désespoir. Tu dis que tout t'échappe. Tu en appelles passionnément à ma tendresse. Et quand je t'en assure moi-même, avec passion, je trouve que tu oublies les absents et que tu es si heureux dans ce coin de l'Orient que tu voudrais toujours voir durer cet Éden. Mais voilà, moi, c'est permanent, immuable. Tu le retrouveras quand ces douces folies seront oubliées pour faire place à d'autres, et peut-être en feras-tu plus tard plus de cas que tu ne le penses. Cher frère, tu es à moi, tu es à Dieu, tu es à nous. Je le sens un jour, bientôt peut-être, tu reprendras courage, confiance et espoir. Tu verras combien cette erreur est douce et délicieuse, précieuse et bienfaisante. Ô mensonge mille fois béni, que celui qui me fait vivre me fera mourir sans regret, sans frayeur, qui mène le monde depuis des siècles, qui a fait les martyrs, qui fait les grands peuples, qui change le deuil en allégresse, et qui crie partout amour, liberté et charité. Aujourd'hui, 10 décembre, visite au Padishah. Tout est blanc comme neige dans les cours du palais de Nolmabsheh, même le sol. Quai de marbre et dalles de marbre, marche de marbre, les gardes du sultan costumés écarlate, les musiciens vêtus de bleu de ciel et chamarrés d'or, les laquais verts pommes doublés de jaune capucine, tranchent en nuances crues sur cette invraisemblable blancheur. Les acrotères et les corniches du palais servent de perchoir à des familles de goélands, de plongeons et de cigognes. Intérieurement, c'est une grande splendeur. Les hallebardiers forment la haie dans les escaliers, immobiles sur leurs grands plumets, comme des momies dorées. Des officiers des gardes, costumés un peu comme feu Aladim, les commandent par signes. Le sultan est grave, pâle, fatigué, affaissé. Réception courte, profond salut, on se retire à reculons, courbé jusqu'à terre. Le café est servi dans un grand salon donnant sur le Bosphore. Des serviteurs à genoux vous allument des chibouks de 2 mètres de long à bout d'ambre, enrichis de pierreries et dont les fourneaux reposent sur des plateaux d'argent. Les arfes, pieds des tasses à café, sont d'argent ciselé, entourés de gros diamants taillés dans rose et d'une quantité de pierres précieuses. En vain chercherait-on dans tout l'islam un époux plus infortuné que le vieil Abedin Effendi. Toujours absent, ce vieillard, toujours en Asie, et quatre femmes, dont la plus âgée a 30 ans, quatre femmes qui, par extraordinaire, s'entendent comme des larrons habiles et se gardent mutuellement le secret de leurs équipées. Asiade elle-même n'est pas trop détestée, bien qu'elle soit de beaucoup la plus jeune et la plus jolie, et ses aînés ne la vendent pas. Elle leur est égale d'ailleurs, une cérémonie dont la portée m'échappe, lui ayant donné, comme aux autres, le titre de dame et d'épouse. Je disais à Asiade, « Que fais-tu chez ton maître? À quoi passez-vous vos longues journées dans le harem ?»« Moi, répondit-elle, je m'ennuie. Je pense à toi, Loti. Je regarde ton portrait, je touche tes cheveux ou je m'amuse avec divers petits objets à toi que j'emporte ici pour me faire société là-bas. » Posséder les cheveux et le portrait de quelqu'un était pour Asiade une chose tout à fait singulière, à laquelle elle n'eût jamais songé sans moi. C'était une chose contraire à ses idées musulmanes, une innovation de Jiaou à laquelle elle trouvait un charme mêlé d'une certaine frayeur. Il avait fallu qu'elle m'aimât bien pour me permettre de prendre de ses cheveux à elle. La pensée qu'elle pouvait subitement mourir avant qu'ils fussent repoussés et paraître dans un autre monde avec une grosse mèche coupée tout ras par un infidèle, oh, cette pensée la faisait frémir. Mais, lui dis-je encore avant mon arrivée en Turquie, que faisais-tu à Iyazadeh? Oh, dans ce temps-là, Loti, j'étais presque une petite fille. Quand pour la première fois je t'ai vue, il n'y avait pas 10 lunes que j'étais dans le harem d'Abeddine. Je ne m'ennuyais pas encore. Je me tenais dans mon appartement, assis sur mon divan, à fumer des cigarettes ou du hashish, à jouer aux cartes avec ma servante Éminée, ou à écouter des histoires très drôles du pays des hommes noirs que Khadija s'est raconté parfaitement. Fenzil et Hanoum apprenaient à broder, et puis nous avions les visites à rendre et à recevoir avec les dames des autres harems. Nous avions aussi notre service à faire auprès de notre maître, et enfin la voiture pour nous promener. Le carrosse de notre mari nous appartient en propre un jour à chacune, mais nous aimons mieux nous arranger pour sortir ensemble et faire de compagnie nos promenades. Nous nous entendons relativement fort bien. Fenzil et Hanoum, qui m'aiment beaucoup, est la dame la plus âgée et la plus considérable du harem. Besmé est colère et entre quelquefois dans de grands emportements, mais elle est facile à calmer, et cela ne dure pas. Aïché est la plus mauvaise de nous quatre, mais elle a besoin de tout le monde et fait la patte de velours parce qu'elle est aussi la plus coupable. Elle a eu l'audace, une fois, d'amener son amant dans son appartement. Cela avait été bien souvent mon rêve aussi, de pénétrer une fois dans l'appartement d'Asiadeh, pour avoir seulement une idée du lieu où ma bien-aimée passait son existence. Nous avions beaucoup discuté ce projet, au sujet duquel Fenzil et Hanoum avaient même été consultés. Mais nous ne l'avions pas mise à exécution, et plus je suis au courant des coutumes de Turquie, plus je reconnais que l'entreprise eût été folle. Notre harem, concluait Asiadeh, est réputé partout comme un modèle pour notre patience mutuelle et le bon accord qui règne entre nous. Triste modèle, en tout cas. Y en a-t-il à Stamboul beaucoup comme celui-là? Le mal y est entré d'abord par l'intermédiaire de la jolie Aïché Hanoum. La contagion a fait en 2 ans des progrès si rapides que la maison de ce vieillard n'est plus qu'un foyer d'intrigues où tous les serviteurs sont subornés. Cette grande cage, si bien grillée et d'un si vert aspect, est devenue une sorte de boîte à trucs, avec portes secrètes et escaliers dérobés. Les oiseaux prisonniers en peuvent impunément sortir et prennent leur volée dans toutes les directions du ciel. Istanbul, 25 décembre 1876. Une belle nuit de Noël, bien claire, bien étoilée, bien froide. À 11 h, je débarque du Dirhound au pied de la vieille mosquée de Fundukli, dont le croissant brille au clair de lune. Ahmet est là, qui m'attend, et nous commençons, aux lanternes, l'ascension de Péra, par les rues biscornues des quartiers turcs. Grande émotion parmi les chiens. On croirait circuler dans un conte fantastique illustré par Gustave Doré. J'étais convié là-haut dans la ville européenne à une fête de Christmas, pareille à celle qui se célèbre à la même date dans tous les coins de la patrie. Hélas, les nuits de Noël de mon enfance, quel doux souvenir j'en garde encore. Loti à Plumket, Eyyub, 27 septembre 1876. Cher Plumket, voilà cette pauvre Turquie qui proclame sa constitution. Où allons-nous, je vous le demande? Et dans quel siècle avons-nous reçu le jour? Un sultan constitutionnel, cela déroute toutes les idées qu'on m'avait inculquées sur l'espèce. À Eyyub, on est consterné de cet événement. Tous les bons musulmans pensent qu'Allah les abandonne et que le padishah perd l'esprit. Moi, qui considère comme facétie toutes les choses sérieuses, la politique surtout, je me dis seulement qu'au point de vue de son originalité, la Turquie perdra beaucoup à l'application de ce nouveau système. J'étais assis aujourd'hui avec quelques derviches dans le kiosque funéraire de Soliman le Magnifique. Nous faisions un peu de politique tout en commentant le Coran, et nous disions que si ce grand souverain qui fit étrangler en sa présence son fils Mustapha, ni son épouse Roxelane qui inventa l'aîné en trompette, n'eussent admis la Constitution. La Turquie sera perdue par le régime parlementaire, cela est hors de doute. Istanbul, 27 septembre. 7 Zilhijjah 1293 de l'Égir. J'étais entré pour laisser passer une averse dans un café turc près de la mosquée de Bayazid. Rien que de vieux turbans dans ce café et de vieilles barbes blanches. Des vieillards, des Hajj Baba, étaient assis, occupés à lire les feuilles publiques ou à regarder à travers les vitres enfumées les passants qui couraient sous la pluie. Des dames turques, surprises par l'ondée, fuyaient de toute la vitesse que leur permettaient leurs babouches et leurs socs à patins. C'était dans la rue une grande confusion et dans le public une grande bousculade, l'eau tombait à torrents. J'examinais les vieillards qui m'entouraient. Leurs costumes indiquaient la recherche minutieuse des modes du bon vieux temps. Tout ce qu'ils portaient était exquis, jusqu'à leurs grandes lunettes d'argent, jusqu'aux lignes de leur vieux profil. Eski, E-S-K-I, mot prononcé avec vénération qui veut dire antique et qui s'applique en Turquie aussi bien à de vieilles coutumes qu'à de vieilles formes de vêtements ou de vieilles étoffes. Les Turcs ont l'amour du passé, l'amour de l'immobilité et de la stagnation. On entendit tout à coup le bruit du canon, une salve d'artillerie partie du Seraski Erat. Les vieillards échangèrent des signes d'intelligence et des sourires ironiques. « Salut à la constitution de Midad Pacha !» dit l'un d'eux en s'inclinant d'un air de moquerie. « Deux députés, une charte !» marmottait un autre vieux turban vert. « Les califes de temps jadis n'avaient point besoin des représentations du peuple. « Voy, 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 Allah ! Et nos femmes ne couraient point en voile de gaz, et les croyants disaient plus régulièrement leurs prières, et les moscoves avaient moins d'insolence. » Cette salve d'artillerie annonçait aux musulmans que le padishah leur octroyait une constitution plus large et plus libérale que toutes les constitutions européennes. Et ces vieux turcos accueillaient très froidement ce cadeau de leur souverain. Cet événement, qu'Ignatieff avait retardé de tout son pouvoir, était attendu depuis longtemps. On put, à dater de ce jour, considérer la guerre comme tacitement déclarée entre la porte et le tsar, et le sultan poussa ses armements avec ardeur. Il était 7h30 à la Turque, environ midi. La promulgation avait lieu à Topkapı, la sublime porte, et j'y courus sous ce déluge. Les vizirs, les pachas, les généraux, tous les fonctionnaires, toutes les autorités en grand costume, tous, et chamarrés de dorure, étaient parqués sur la grande place des Topkapı, où étaient réunies les musiques de la cour. Le ciel était noir et tourmenté, pluie et grêle tombaient abondamment et inondaient tout ce monde. Sous ces cataractes, on donnait au peuple la lecture de la charte et les vieilles murailles crénelées du sérail qui fermaient le tableau semblaient s'étonner beaucoup d'entendre proférer en plein Istanbul ces paroles subversives. Des cris, des vivas et des fanfares terminèrent cette singulière cérémonie et tous les assistants, trempés jusqu'aux os, se dispersèrent tumultueusement. À la même heure, à l'autre bout de Constantinople, au palais de Mamiroté, s'étaient réunis les membres de la conférence internationale. C'était un effet combiné à dessein. Les salves devaient se faire entendre au milieu du discours de Salfet Pacha au plénipotentiaire et l'aider dans sa péroraison. L'Orient, l'Orient, qui voyez-vous, poète? Tournez vers l'Occident, vos esprits et vos yeux. « Hélas !» ont répondu leurs voix longtemps muettes, « nous voyons bien là-bas un jour mystérieux. »« C'est peut-être le soir qu'on prend pour une aurore. » Victor Hugo, Chant du crépuscule. Je n'oublierai jamais l'aspect qu'avait pris cette nuit-là la grande place du Seraskierat, esplanade immense sur la hauteur centrale de Istanbul, d'où, par-dessus les jardins du sérail, le regard s'étend dans le lointain jusqu'aux montagnes d'Araste. Les portiques arabes, la haute tour aux formes bizarres, étaient illuminés comme au soir des grandes fêtes. Le déluge de la journée avait fait en ce lieu un vrai lac où se reflétaient toutes ces lignes de feu. Et autour du vaste horizon surgissaient dans le ciel les dômes des mosquées et les minarets aigus, longues tiges surmontées d'aériennes couronnes de lumière. Un silence de mort régnait sur cette place. C'était un vrai désert. Le ciel clair, balayé par un vent qu'on ne sentait pas, était traversé par deux bandes de nuages noirs, au-dessus desquels la lune était venue plaquer son croissant bleuâtre. C'était d'un de ces aspects à part Que semble prendre la nature dans ces moments où va se consommer quelque grand événement de l'histoire des peuples. Un grand bruit se fit entendre, bruit de pas et de voix humaines. Une bande de sauvetards entrée par les portiques du centre, portant des lanternes et des bannières. Ils criaient « Vive le sultan! Vive Mirad Pacha! Vive la Constitution! Vive la guerre !» Ces hommes étaient comme enivrés de se croire libres. Et seuls quelques vieux Turcs, qui se souvenaient du passé, haussaient les épaules en regardant courir ces foules exaltées. « Allons saluer Mirad Pacha !» s'écrièrent les sauvetats. Et ils prirent à gauche par de petites rues solitaires pour se rendre à l'habitation modeste de ce grand vizir, alors si puissant, qui devait, quelques semaines après, partir pour l'exil. Au nombre d'environ 2000, les sauvetats s'en allèrent ensemble prier dans la grande mosquée, la Souleymaniyeh, et de là passèrent la Corne d'Or pour aller à Dolma Bakhché acclamer Abdulmoumid. Devant les grilles du palais, des députations de tous les corps et une grande masse confuse d'hommes s'étaient réunis spontanément dans le but de faire au souverain constitutionnel une ovation enthousiaste. Ces bandes revinrent à Istanbul par la grande rue de Péra, acclamant sur leur passage Lord Salisbury, qui devait bientôt devenir si impopulaire, l'ambassade britannique et celle de France. « Nos ancêtres, disait Léolja, haranguant la foule, nos ancêtres, qui n'étaient que quelques centaines d'hommes, ont conquis ce pays il y a 4 siècles. Et nous, qui sommes plusieurs centaines de mille, le laisserons-nous envahir par l'étranger ? Mourons tous, musulmans et chrétiens, mourons pour la patrie ottomane, plutôt que d'accepter les conditions déshonorantes. » La mosquée du sultan Mehmed Fatih, Mehmed le conquérant, nous voit souvent assis, Ahmed et moi, devant ces grandes portiques de pierre grise, étendus tous deux au soleil et sans souci de la vie, poursuivant quelques rêves indécis, intraduisibles dans aucune langue humaine. La place de Mehmed Fatih occupe tout en haut du vieux Istanbul de grands espaces où circulent des promeneurs en caftan de cachemire, coiffés de larges turbans blancs. La mosquée, qui s'élève au centre, est une des plus vastes de Constantinople et aussi une des plus vénérées. L'immense place est entourée de murailles mystérieuses que surmontent des files de dômes de pierre semblables à des aliments de ruches d'abeilles. Ce sont des demeures de sauvetage où les infidèles ne sont point admis. Ce quartier est le centre d'un mouvement tout oriental. Les chameaux le traversent de leurs pas tranquilles en faisant tinter leurs clochettes monotones. Les derviches viennent s'y asseoir pour deviser les choses saintes. Et rien n'y est encore arrivé d'Occident. Près de cette place est une rue sombre et sans passant où pousse l'herbe verte et la mousse. Là est la demeure d'Aziyadé. Là est le secret du charme de ce lieu. Les longues journées où je suis privé de sa présence, je les passe là, moins loin d'elle, ignoré de tous et à l'abri de tous les soupçons. Aziyadé est plus souvent silencieuse et ses yeux sont plus tristes. « Qu'as-tu, Loti ? » dit-elle. « Et pourquoi es-tu toujours sombre ? C'est à moi de l'être, puisque quand tu seras parti, je vais mourir. » Et elle fixa ses yeux sur les miens avec tant de pénétration et de persistance que je détournai la tête sous ce regard. « Moi, dis-je, ma chérie, mais je me plains de rien quand tu es là, et je suis plus heureux qu'un roi. » En effet, qui est plus aimé que toi, Loti ? Et qui pourrais-tu bien envier ? Envierais-tu même le sultan ? Cela est vrai, le sultan, l'homme qui pour les Ottomans doit jouir de la plus grande somme du bonheur sur la terre, n'est pas l'homme que je puis envier. Il est fatigué, vieilli, depuis les constitutionnels. Je pense, Asiyadé, lui dis-je, que le padishah donnerait tout ce qu'il possède, même son émeraude, qui est aussi large qu'une main, même sa charte et son parlement, pour avoir ma liberté et ma jeunesse. J'avais envie de dire, pour t'avoir, toi, mais le padishah ferait sans doute bien peu de cas d'une jeune femme, si charmante qu'elle fût, et j'eus peur surtout de prononcer une rengaine d'opéra comique. Mon costume y prêtait d'ailleurs, une glace m'envoyait une image déplaisante de moi-même et je me faisais l'effet d'un jeune ténor prêt à entonner un morceau d'Homère. C'est ainsi que par moments, je ne réussis plus à me prendre au sérieux dans mon rôle turc. L'otit passe le bout de l'oreille sous le turban d'Arif et je retombe sottement sur moi-même, impression maussade et insupportable. J'ai été difficile et fier pour tout ce qui porte lévite ou chapeau noir. Personne n'était pour moi assez brillant ni assez grand seigneur. J'ai beaucoup méprisé mes égaux et choisi mes amis parmi les plus raffinés. Mais ici, je suis devenu homme du peuple et citoyen d'Eyoub. Je m'accommode de la vie modeste des bateliers et des pêcheurs, même de leur société et de leurs plaisirs. Au café turc, chez le café Dji Süleyman, on élargit le cercle autour du feu quand j'arrive le soir avec Samuel et Ahmet. Je donne la main à tous les assistants et je m'assieds pour écouter le conteur des veillées d'hiver. Les longues histoires qui durent 8 jours et où figurent les djinns et les génies. Les heures passent là, sans fatigue et sans remords. Je me trouve à l'aise au milieu d'eux et nullement dépaysé. Arif et Loti étant deux personnages très différents, il suffirait le jour du départ du Likhoud qu'Arif restât dans sa maison. Personne sans doute ne viendrait l'y chercher, seulement Loti aurait disparu, et disparu pour toujours. Cette idée, qui est d'Asiyadé, se présente à mon esprit par instance sous des aspects étrangement admissibles. Rester près d'elle, non plus à Stamboul, mais dans quelques villages turcs au bord de la mer. Vivre au soleil et au grand air de la vie saine des hommes du peuple. Vivre au jour le jour, sans créanciers et sans souci de l'avenir. Je suis plus fait pour cette vie que pour la mienne. J'ai horreur de tout travail qui n'est pas du corps et des muscles, horreur de toute science, haine de tous les devoirs conventionnels, de toutes les obligations sociales de nos pays d'Occident. Être batelier en veste dorée, quelque part au sud de la Turquie, là où le ciel est toujours pur, le soleil toujours chaud. Ce serait possible, après tout, et je serais là moins malheureux qu'ailleurs. Je te jure, Asiyadé, dis-je, que je laisserai tout sans regret, ma position, mon nom et mon pays. Mes amis, je n'en ai pas et je m'en moque. Mais vois-tu, j'ai une vieille mère. Asiyadé ne dit plus rien pour me retenir, bien qu'elle ait compris peut-être que cela ne serait pas tout à fait impossible. Mais elle sent par intuition ce que cela doit être qu'une vieille mère, elle, la pauvre petite, qui n'en a jamais eu. Et les idées qu'elle a sur la générosité et le sacrifice ont plus de prix chez elle que chez d'autres, parce qu'elles lui sont venues toutes seules, et que personne ne s'est inquiété de les lui donner. De Plumket à Lotti, Liverpool, 1876. Mon cher Lotti, Figaro était un homme de génie. Il riait si souvent qu'il n'avait jamais le temps de pleurer. Sa devise est la meilleure de toutes, et je le sais si bien que je m'efforce de la mettre en pratique et d'y arriver tant bien que mal. Malheureusement, il m'est fort difficile de rester trop longtemps le même individu. Trop souvent, la gaieté de Figaro m'abandonne, et c'est alors Jérémie, prophète de malheur, ou David, Auguste désespéré, sur lequel la main céleste s'est appesantie, qui s'empare de moi et me possède. Je ne parle pas, je crie, je rugis. Je n'écris pas, je ne pourrais que briser ma plume et renverser mon encrier. Je me promène à grands pas en montrant le poing à un être imaginaire, à un bouc émissaire idéal, auquel je rapporte toutes mes douleurs. Je commets toutes les extravagances possibles. Je me livre à huis clos aux actes les plus insensés, après quoi, soulagé ou plutôt fatigué, je me calme et deviens raisonnable. Alors vous allez me répéter encore que je suis un drôle de type, un fou, que sais-je. À quoi je répondrai, oui, mais bien moins que vous ne croyez, bien moins que vous, par exemple. Avant de porter un jugement sur moi, encore faudrait-il me connaître, me comprendre un peu, et savoir quelles circonstances ont pu faire naître d'un individu né raisonnable le drôle de type que je suis. Nous sommes, voyez-vous, le produit de deux facteurs qui sont nos dispositions héréditaires, où l'enjeu que nous apportons en paraissant sur la scène de la vie et les circonstances qui nous modifient et nous façonnent comme une matière plastique qui prend et garde les empreintes de tout ce qu'il a touché. Les circonstances, pour moi, n'ont été que douloureuses. J'ai été, pour me servir de l'expression consacrée, formé à l'école du malheur. Tout ce que je sais, je l'ai appris à mes dépens. Aussi, je le sais bien. C'est pourquoi je l'exprime parfois d'une manière un peu tranchante. Si j'ai l'air parfois de dogmatiser, c'est que j'ai la prétention, moi qui ai souffert beaucoup, d'en savoir plus que ceux qui ont moins souffert que moi, et de parler mieux qu'ils ne le pourraient faire en connaissance de cause. Pour moi, il n'y a pas d'espoir en ce monde, et je n'ai pas cette consolation de ceux qu'une foi ardente renfort au milieu des luttes de la vie et confiant dans la justice suprême du Créateur. Et pourtant, je vis sans blasphémer. Ai-je pu, au milieu de froissements continuels, conserver les illusions, l'enthousiasme et la fraîcheur morale de la jeunesse ? Non, vous le savez bien. J'ai renoncé aux plaisirs de mon âge, qui ne sont déjà plus de mon goût. J'ai perdu l'aspect et les allures d'un jeune homme, et je vis désormais sans but comme sans espoir. Est-ce à dire pourtant que j'en sois réduit au même point que vous, dégoûté de tout, niant tout ce qui est bon, riant, ni en la vertu, ni en l'amitié, ni en tout ce qui peut nous rendre supérieurs à la brute ? Non, entendons-nous, mon ami, sur ces points, je pense tout autrement que vous. J'avoue que, malgré mon expérience des choses de ce monde, au plus si vous ne l'avez jamais acquérir une pareille, il en coûte trop cher. Je crois encore à tout cela et à bien d'autres choses encore. À Londres, Georges m'a fait lire la lettre qu'il venait de recevoir de vous. Vous la commencez gentiment par le récit circonstancié et agrémenté de descriptions d'une amourette à la turque. Nous vous suivons, Georges et moi, à travers les méandres fantasmagoriques d'une grande fourmilière orientale. Nous restons la bouche béante en face des tableaux que vous nous tracez. Je songe à vos trois poignards, comme je songeais au bouclier d'Achille si minutieusement chanté par Homère. Et puis enfin, peut-être parce que vous avez reçu un grain de poussière dans l'œil, peut-être parce que votre lampe s'est mise à fumer comme vous acheviez votre lettre, peut-être pour moins que cela, vous terminez en nous lançant la série des lieux communs éditée au siècle dernier. Je crois vraiment que les lieux communs des frères ignorantins valent encore mieux que ceux du matérialisme, dont le résultat sera l'anéantissement de tout ce qui existe. On les acceptait au XVIIIe siècle, ces idées matérialistes. Dieu était un préjugé, la morale était devenue l'intérêt bien entendu, la société un vaste champ d'exploitation pour l'homme habile. Tout cela séduisait beaucoup de gens par sa nouveauté, par la sanction qu'en recevaient les actes les plus immoraux. Heureuse époque où aucun frein ne vous retenait, où l'on pouvait tout faire, l'on pouvait rire de tout, même des choses les moins drôles, jusqu'au moment où tant de têtes tombèrent sous le couteau de la Révolution, que ceux qui conservèrent la leur commencèrent à réfléchir. Ensuite vint une époque de transition, où l'on vit apparaître une génération atteinte de phtisie morale, affligée de sensiblerie constitutionnelle, regrettant le passé qu'elle ne connaissait pas, maudissant le présent qu'elle ne comprenait pas, et doutant de l'avenir qu'elle ne devinait pas. Une génération de romantiques, une génération de petits jeunes gens passant leur vie à rire, à pleurer, à prier, à blasphémer, modulant sur tous les tons leur insipide complainte pour en venir un beau jour à se faire sauter la cervelle. Aujourd'hui, mon ami, on est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus pratique. On se hâte, avant d'être devenu un homme, de devenir une espèce d'homme ou un animal particulier, comme vous voudrez. On se fait sur toute chose des opinions ou des préjugés en rapport avec son état. On tombe dans un certain milieu de la société, on en prend les idées. Vous acquérez ainsi une certaine tournure d'esprit ou, si vous aimez mieux, un genre de bêtise qui cadre bien avec le milieu dans lequel vous vivez. On vous comprend, vous comprenez les autres, vous entrez ainsi en communion intime avec eux et devenez réellement un membre de leur corps. On se fait banquier, ingénieur, bureaucrate, épicier, militaire, que sais-je. Mais au moins on est quelque chose, on fait quelque chose. On a la tête quelque part et non ailleurs. On ne se perd pas dans des rêves sans fin. On ne doute de rien, on a sa ligne de conduite toute tracée par les devoirs que l'on est tenu de remplir. Les doutes que l'on pourrait avoir en philosophie, en religion, en politique, les civilités puériles et honnêtes sont là pour les combler. Ainsi, ne vous embarrassez donc pas pour si peu. La civilisation vous absorbe, les mille et un rouages de la grande machine sociale vous engrènent. Vous vous trémoussez dans l'espace, vous vous abêtissez dans le temps grâce à la vieillesse. Vous faites des enfants qui seront aussi bêtes que vous. Puis enfin, vous mourrez, muni des sacrements de l'Église. Votre cercueil est inondé d'eau bénite, on chante du latin en faux bourdon autour d'un catafalque à la lueur des cierges. Ceux qui étaient habitués à vous voir vous regrettent si vous avez été bon durant votre vie. Quelques-uns même vous pleurent sincèrement. Puis enfin, on hérite de vous. Ainsi va le monde. Tout cela n'empêche pas, mon ami, qu'il y ait sur Terre de fort braves gens, des gens foncièrement honnêtes, organiquement bons, faisant le bien pour la satisfaction intime qu'ils en retirent, ne volant pas et n'assassinant pas, lors même qu'ils seraient sûrs de l'impunité parce qu'ils ont une conscience qui est un contrôle perpétuel des actes auxquels leur passion pourrait les pousser, des gens capables d'aimer, de se dévouer corps et âme, des prêtres croyant en Dieu et pratiquant la charité chrétienne, des médecins bravant les épidémies pour sauver quelques pauvres malades, des sœurs de charité allant au milieu des armées soigner de pauvres blessés, des banquiers à qui vous pourrez confier votre fortune, des amis qui vous donneront la moitié de la leur, des gens, moi par exemple, sans aller chercher plus loin, qui serait peut-être capable, en dépit de tous vos blasphèmes, de vous offrir une affection et un dévouement illimités. Cessez donc ces boutades d'enfants malades. Elles viennent de ce que vous rêvez au lieu de réfléchir, de ce que vous suivez la passion au lieu de la raison. Vous vous calomniez lorsque vous parlez ainsi. Si je vous disais que tout est vrai dans votre fin de lettre et que je vous crois tel que vous vous y dépeignez, vous m'écrieriez aussitôt pour protester. pour me dire que vous ne pensez pas un mot de toute cette atroce profession de foi, que ce n'est que la bravade d'un cœur plus tendre que les autres, que ce n'est que l'effort douloureux que fait pour se raidir la sensitive contractée par la douleur. Non, 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 mon ami, je ne vous crois pas, et vous ne vous croyez pas vous-même. Vous êtes bon, vous êtes aimant, vous êtes sensible et délicat. Seulement vous souffrez. Aussi, je vous pardonne et vous aime et demeure d'une protestation vivante contre votre négation de tout ce qui est amitié, désintéressement et dévouement. C'est votre vanité qui nie tout cela et non pas vous. Votre fierté blessée vous fait cacher vos trésors et étaler à plaisir l'être factice créé par votre orgueil et votre ennui. Plumket. Loti à William Brown, Ayoub, décembre 1876. Mon cher ami, je viens vous rappeler que je suis seul au monde. J'habite sous le nom de Arif Effendi, rue Kourou Tchemcher, à Ayoub, et vous me feriez grand plaisir en voulant bien me donner signe de vie. Vous débarquez à Constantinople, côté de Stamboul. Vous enfilez 4 kilomètres de bazar et de mosquée. Vous arrivez au Saint-Faubourg d'Ayoub, où des enfants prennent pour cible à cailloux votre coiffure insolite. Vous demandez la rue Kourou Tchemchel, que l'on vous indique immédiatement. Et au bout de cette rue, vous trouvez une fontaine de marbre sous des amandiers. Et ma case est à côté. J'habite là en compagnie d'Aziyadé, cette jeune femme de Salonique dans laquelle je vous avais autrefois parlé et que je ne suis pas bien loin d'aimer. J'y vis presque heureux dans l'oubli du passé et des ingrats. Je ne vous raconterai point quelles circonstances m'ont amené dans ce recoin de l'Orient, ni comment j'en suis venu à adopter pour un temps le langage et les coutumes de la Turquie, même ses beaux habits de soie et d'or. Voici seulement ce soir 30 décembre, quelle est la situation? Beau temps froid, clair de lune. À la cantonade, les derviches psalmodient d'une voix monotone. C'est le bruit familier qui tonne chaque jour à mes oreilles. Mon chat, Kedi Bey, et mon domestique, Youssouf, se sont retirés, l'un portant l'autre dans leur appartement commun. Aziyadé, assise comme une fille de l'Orient sur une pile de tapis et de coussins, est occupée à teindre ses ongles en rouge-orange, opération de la plus haute importance. Moi, je me souviens de vous, de votre vie à Londres, et toutes nos sottises, et je vous écris en vous priant de vouloir bien me répondre. Je ne suis pas encore musulman, pour tout de bon, comme au début de ma lettre, vous pourriez le supposer. Non, je mène simplement de front deux personnalités différentes et suis aussi officiellement, mais le moins souvent possible, Monsieur Loti, lieutenant de marine. Comme vous seriez en peine pour mettre mon adresse en turc, écrivez-moi sous mon nom véritable par le Dirhound ou l'ambassade britannique. Istanbul, 1er janvier 1877. L'année 77 débute par une journée radieuse, un temps printanier. Ayant expédié dans la journée certaines visites qu'un reste de condescendance pour les coutumes d'Occident m'obligeait à faire dans la colonie de Péhéra, je rentre le soir à cheval à Ayoub par le Champ des Morts et Kassim Pacha. Je croise le coupé du terrible Ignatieff, qui revient ventre à terre de la conférence, sous nombreuses escortes des Croates à ses gages. Un instant après, Lord Salisbury et l'ambassadeur d'Angleterre rentrent aussi, fort agités l'un et l'autre. On s'est disputé à la séance et tout est au plus mal. Les pauvres Turcs refusent avec l'énergie du désespoir les conditions qu'on leur impose. Et pour leur peine, on veut les mettre hors la loi. Tous les ambassadeurs partiraient ensemble en criant « Sauf qui peut » à la colonie d'Europe. On verrait alors de terribles choses, une grande confusion et beaucoup de sang. Puisse cette catastrophe passer loin de nous. Il faudrait, demain peut-être, quitter Eyoub pour n'y plus revenir. Nous descendions par une soirée splendide la rampe d'Umkapan. Stamboul avait un aspect inaccoutumé. Les Hodjas, dans tous les minarets, chantaient des prières inconnues sur des airs étranges. Ces voix aiguës, parties de si haut à une heure insolite de la nuit, inquiétaient l'imagination. Et les musulmans, groupés sur leurs portes, semblaient regarder tous quelques points effrayants du ciel. Ahmed suivit leur regard et me saisit la main avec terreur. La lune, que tout à l'heure nous avions vue si brillante sur le dôme de Sainte-Sophie, s'était éteinte là-haut dans l'immensité. Ce n'était plus qu'une tache rouge, terne et sanglante. Il n'est rien de si puissant que les signes du ciel. Et ma première impression, plus rapide que l'éclair, fut aussi une impression de frayeur. Je n'avais point prévu cet événement, ayant depuis longtemps négligé de consulter le calendrier. Ahmed m'explique combien c'est là un cas grave et sinistre. D'après la croyance turque, la lune est en ce moment aux prises avec un dragon qui la dévore. On peut la délivrer cependant en intercédant auprès d'Allah et en tirant un bal sur le monstre. On récite en effet dans toutes les mosquées des prières de circonstance et la fusillade commence à Stamboul. De toutes les fenêtres, de tous les toits, on tire des coups de fusil à la lune dans le but d'obtenir une heureuse solution de l'effrayant phénomène. Nous prenons un caïque au fanar pour rejoindre notre logis. On nous arrête en route. À mi-chemin de la Corne d'Or, le canot des Abtiers nous barre le passage. Une nuit d'éclipse, se promener en caïque est interdit. Nous ne pouvons cependant pas coucher dans la rue. Nous parlementons, nous discutons, le prenant de très haut avec messieurs les Abtiers, et une fois encore, en payant d'audace, nous nous tirons d'affaire. Nous arrivons à la case où Aziyadé nous attend dans la consternation et la terreur. Les chiens hurlent à la lune d'une façon lamentable qui complique encore la situation. D'un air mystique, Ahmed et Aziyadé m'apprennent que ces chiens hurlent ainsi pour demander à Allah un certain pain mystérieux qu'il aurait dispensé dans certaines circonstances solennelles et que les hommes ne peuvent voir. L'éclipse continue sa marche malgré la fusillade. Le disque entier est même d'une rare nuance rouge extraordinairement prononcée, coloration due à un état particulier de l'atmosphère. J'essaie l'explication du phénomène au moyen d'une bougie, d'une orange et d'un miroir, vieux procédé d'école. J'épuise ma logique, mais mes élèves ne comprennent pas. Devant cette hypothèse tout à fait inadmissible que la Terre est ronde, Aziyadé s'assied avec dignité et refuse absolument de me prendre au sérieux. Je me fais l'effet d'un pédagogue, image horrible, et je suis pris de fou rire. Je mange l'orange et j'abandonne ma démonstration. À quoi bon, du reste, cette sotte science, et pourquoi leur ôterais-je la superstition qui les rend plus charmants? Et nous voilà, nous aussi, tirant tous les trois des coups de fusil par la fenêtre, à la lune qui continue de faire là-haut un effet sanglant, au milieu des étoiles brillantes, dans le plus radieux de tous les ciels. Vers 11 heures, Achmet nous éveille pour nous annoncer que le traitement a réussi. La lune est Yuya Pilmish, guérie. En effet, la lune, tout à fait rétablie, brillait comme une splendide lampe bleue dans le beau ciel d'Orient. Ma mère Beidjé est une très extraordinaire vieille femme, octogénaire et infirme, fille et veuve de Pacha, plus musulmane que le Coran et plus raide que la loi du chéri. Feu chef Ked Daoub Pacha, époux de Beidjé Hanoum, fut un des favoris du sultan Mahmoud et trempa dans le massacre des janissaires. Beidjé Hanoum, admise à cette époque dans son conseil, l'y avait poussé de tout son pouvoir. Dans une rue verticale du quartier turc de Djihangir, sur les hauteurs du Taksim, habite la vieille Beidjé Hanoum. Son appartement, qui déjà surplombe des précipices, porte deux shraknissir en saillie, soigneusement grillé de lattes de frêne. De là, on domine d'aplomb les quartiers de Foudoukli, les palais de Dolma Balché et de Tcheragan, la pointe du Sérail, le Bosphore, le Dirhound, pareil à une coquille de noix posée sur une nappe bleue, et puis Scutari et toute la côte d'Asie. Beidjé Hanoum passe ses journées à cet observatoire, étendu sur un fauteuil, et Asiyadeh est souvent à ses pieds. Asiyadeh est attentive aux moindres signes de sa vieille amie et dévorant ses paroles comme les arrêts divins d'un oracle. C'est une anomalie que l'intimité de la jeune femme obscure et de la vieille Kadine, rigide et fière, de noble souche et de grande maison. Beidjé Hanoum ne m'est connu que par oui-dire. Les infidèles ne sont point admis dans sa demeure. Elle est belle encore, affirme Asiyadeh, malgré ses 80 ans, belle comme les beaux soirs d'hiver. Et chaque fois qu'Asiyadeh m'exprime quelque idée neuve, quelque notion nette et profonde sur des choses qu'elle semblerait devoir ignorer absolument, et que je lui demande « Mais qui t'a appris cela, ma chérie ?» Asiyadeh répond « C'est ma mère, Beidjé. » Ma mère et mon père sont des titres de respect qu'on emploie en Turquie lorsqu'on parle de personnes âgées, même lorsque ces personnes vous sont indifférentes ou inconnues. Beidjé Hanoum n'est point une mère pour Asiyadeh. Tout au moins, est-ce une mère imprudente qui ne craint pas d'exalter terriblement la jeune imagination de son enfant? Elle l'exalte au point de vue religieux d'abord, tant et si bien que la pauvre petite abandonnée verse souvent des larmes très amères sur son amour pour un infidèle. Elle l'exalte au point de vue romanesque aussi, par le récit de longues histoires, contées avec esprit et avec feu, qui me sont redites la nuit par les lèvres fraîches de ma bien-aimée. Longues histoires fantastiques, aventures du grand Tchengiz ou des anciens héros de désert, légendes persanes ou tartares, où l'on voit de jeunes princesses persécutées par les génies accomplir des prodiges de fidélité et de courage. Et quand Asiyadeh arrive le soir, l'imagination plus surexcitée que de coutume, je puis en toute sûreté lui dire « Tu as passé ta journée, ma chère petite amie, au pied de ta mère Beidjé. » Janvier 1877. 8 jours à Bouyoukdere, dans le haut Bosphore, à l'entrée de la mer Noire. Le Dirhound est mouillé près des grands cuirassés turcs qui sont postés là comme des chiens de garde à l'intention de la Russie. Cette situation du Dirhound qui m'éloigne de Stamboul coïncide avec un séjour du vieil Abedine dans sa demeure. Tout est pour le mieux et cette séparation nous tient lieu de prudence. Il fait froid, il pleut, Les journées se passent à courir dans la forêt de Belgrade, et ces courses sous bois me ramènent aux temps heureux de mon enfance. Des chênes antiques, des houx, de la mousse et des fougères, presque la végétation du Yorkshire. À part qu'il y pousse aussi des ours, on se croirait dans les bons vieux bois de la patrie. Samuel a peur des caddies, des chats. Le jour où les caddies lui inspirent des idées drôles, il ne peut les regarder sans rire. La nuit, il devient très respectueux et s'en tient à distance. Je m'habillais pour un bal d'ambassade. Samuel, qui m'avait laissé pour aller dormir, revint tout à coup frapper à ma porte. « Bir Madame Keddy !» disait-il d'un air effaré. « Bir Madame Keddy !» Une Madame Chat, enfin lisait chatte, qui portait ses piccolos dormir comme Samuel, qui apportait ses petits pour dormir avec Samuel. Et il continuait à la cantonade avec un sérieux imperturbable. Chez nous, dans ma famille, ceux-là qui dérangent les chats, dans le mois même, ils doivent mourir. Monsieur Lotti, comment faire? Quand ma toilette fut achevée, je me décidai à prêter main forte à mon ami et j'entrai dans sa chambre. Une dame Keddy était en effet postée sur l'oreiller de Samuel tout au milieu. C'était une personne de beaucoup d'embonpoint, revêtue d'une belle pelure jaune. Avec un air de dignité et de triomphe, assise sur son innommable, elle contemplait tour à tour Samuel immobile et ses petits qui s'ébattaient sur la couverture. Samuel, assis dans un coin, tombant de sommeil, assistait à cette scène de famille dans une attitude de consternation résignée, et il attendait que je vinsse à son secours. Cette Madame Keddy m'était inconnue. Elle ne fit aucune difficulté, cependant, pour se laisser prendre à mon cou et porter dehors avec ses enfants. Après quoi, Samuel, ayant soigneusement épousseté sa couverture, fit mine de s'aller coucher. Je ne devais point rentrer cette nuit-là. J'arrivais à l'improviste à 2 heures du matin. Samuel avait ouvert toute grande la fenêtre de sa chambre et disposé des cordes sur lesquelles il avait étendu ses couvertures afin de les purger par le grand air de tout effluve de chat. Lui-même s'était installé dans mon lit où il dormait du sommeil des têtes jeunes et des consciences pures. Pour lui, c'était bien là son cas. Le lendemain, nous apprîmes que cette Madame Keddy était la bête adorée mais coureuse d'un vieux juif du voisinage, repasseur de Tarbouche. C'était Noël à la grecque. Le vieux fanard était en fête. Des bandes d'enfants promenaient des lanternes, des girandoles de papier de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ils frappaient à toutes les portes à tour de bras et donnaient des sérénades terribles avec accompagnement de tambours. Achmed, qui passait avec moi, témoignait un grand mépris pour ces réjouissances d'infidèles. Le vieux fanard, même au milieu de ce bruit, ne pouvait s'empêcher d'avoir l'air sinistre. On voyait cependant s'ouvrir toutes les petites portes byzantines, rongées de vétusté, et dans leurs embrasures massives apparaissaient des jeunes filles vêtues comme des parisiennes qui jetaient aux musiciens des piastres de cuivre. Et ce fut bien pis quand nous arrivâmes à Galata. Jamais dans aucun pays du monde il ne fut donné d'ouïr un vacarme plus discordant ni de contempler un spectacle plus misérable. C'était un grouillement cosmopolite inimaginable, dans lequel dominait en grande majorité l'élément grec. L'immonde population grecque affluait en masse compacte. Il en sortait de toutes les ruelles de prostitution, de tous les estaminets, de toutes les tavernes. Impossible de se figurer tout ce qu'il y avait là d'hommes et de femmes ivres, tout ce qu'on y entendait de braillements avinés et de cris écœurants. Et quelques baumes jubilants s'y trouvaient aussi, venus pour rire tranquillement aux dépens des infidèles, pour voir comment ces chrétiens du Levant, sur le sort desquels on a attendri l'Europe, par de si pathétiques discours, célébraient la naissance de leurs prophètes. Tous ces hommes qui avaient si grande peur d'être obligés d'aller se battre comme des Turcs, depuis que la Constitution leur conférait le titre immérité de citoyens, s'en donnaient à cœur joie de chanter et de boire. Je me souviens de cette nuit où le bail couche, le hibou, suivit notre caïque sur la Corne d'Or. C'était une froide nuit de janvier. Une brume glaciale embrouillait les grandes ombres de Stamboul et tombait en pluie fine sur nos têtes. Nous ramions, Ahmed et moi, à tour de rôle, dans le caïque qui nous menait à Eyoub. À l'échelle du Fanar, nous abordâmes avec précaution dans la nuit noire, au milieu de pieux, d'épaves et de milliers de caïques échoués sur la vase. On était là, au pied des vieilles murailles du quartier byzantin de Constantinople, lieu qui n'est fréquenté à par ailleurs par aucun être humain. Deux femmes, pourtant, s'y tenaient blotties, deux ombres à tête blanche, cachées dans certains recoins obscurs qui nous étaient familiers, sous le balcon d'une maison en ruine. C'était Aziadée et la vieille, la fidèle Khadija. Quand Aziadée fut assise dans notre barque, nous repartîmes. La distance était grande encore de l'échelle du Fanar à celle des Youb. De loin en loin, une rare lumière, partie d'une maison grecque, laissait tomber dans l'eau trouble une traînée jaune. Autrement, c'était partout la nuit profonde. Passant devant une antique maison bardée de fer, nous entendîmes le bruit d'un orchestre et d'un bal. C'était une de ces grandes habitations, noires au dedans, somptueuses au dehors, où les anciens Grecs, les phalariotes, cachent leur opulence, leurs diamants et leurs toilettes parisiennes. Puis le bruit de la fête se perdit dans la brume, et nous retombâmes dans le silence et l'obscurité. Un oiseau volait lourdement autour de notre caïque, passant et repassant sur nous. « Moufemna, mauvaise affaire !» dit Ahmed en hochant la tête. « Ben, Kouchmi !» lui demanda Ziadeh tout encapuchonné et emmailloté. « N'est-ce pas le hibou ?» Quand il s'agissait de leur superstition ou de leur croyance, ils avaient coutume de s'entretenir tous les deux et de me compter pour rien. « Bouchouak, fenaloti !» dit-elle ensuite en me prenant la main. « Amassen, bilmsen !»« C'est très mauvais cela, loti, mais toi, tu ne sais pas. » C'était singulier au moins de voir circuler cette bête une nuit d'hiver, et elle nous suivit sans trêve pendant plus d'une heure que nous mîmes à remonter de l'échelle du Fanar à celle des Youb. Il y avait un courant terrible cette nuit-là sur la Corne d'Or. La pluie tombait toujours, fine et glaciale. Notre lanterne s'était éteinte et cela nous exposait à être arrêtés par des bachibouzouks de patrouille, ce qui eût été notre perte à tous les trois. Par le travers de Balata, nous rencontrâmes des caïques remplis de Yahoudis, de Juifs. Les Yahoudis, qui occupent en ce point les deux rives, Balat et Pri Pacha, voisinent le soir où reviennent de la grande synagogue, et ce lieu est le seul où l'on trouve la nuit du mouvement sur la Corne d'Or. Ils chantaient en passant une chanson plaintive dans leur langue de Yahoudi. Le Beykouch continuait de voltiger sur nos têtes et Aziadeh pleurait de froid et de frayeur. Quelle joie ce fut quand nous amarrâmes sans bruit, dans l'obscurité profonde, notre caïque à l'échelle des Youb. Sauter sur la vase de planche en planche, oh, nous connaissions ces planches par cœur, en aveugle. Traverser la petite place déserte, faire tourner doucement les serrures et les verrous, et refermer le tout derrière nous trois. Passer la visite des appartements vagues du rez-de-chaussée, le dessous de l'escalier, la cuisine, l'intérieur du four. Laisser nos chaussures pleines de boue et nos vêtements mouillés. Monter pieds nus sur les nattes blanches. Donner le bonsoir à Archmet qui se retirait dans son appartement. Entrer dans notre chambre et la fermer encore à clé. Laisser tomber derrière nous la portière arabe blanche et rouge. Nous asseoir sur les tapis épais devant le brasero de cuivre qui couvait depuis le matin et répandait une douce chaleur embaumée de pastilles de sérail et d'eau de rose. C'était pour au moins 24 heures la sécurité et l'immense bonheur d'être ensemble. Mais le bail couche nous avait suivis et se mit à chanter dans un platane sous nos fenêtres. Et Asiyadé, brisé de fatigue, s'endormit au son de sa voix lugubre, en pleurant à chaudes larmes. Leur madame était une vieille coquine qui avait couru toute l'Europe et fait tous les métiers. Leur madame, enfin la madame de Samuel et d'Archmet, il appelait ainsi « Bisoum madame, notre madame ». Leur madame parlait toutes les langues et tenait un café borgne dans le quartier de Galata. Le café de leur madame ouvrait sur la grande rue bruyante. Il était très profond et très vaste. Il avait une porte de derrière sur une impasse mal famée des quais de Galata, laquelle impasse servait de débouché à plusieurs mauvais lieux. Ce café était surtout le rendez-vous de certains matelots de commerce italiens et maltais, suspects de vol et de contrebande. Ils s'y traitaient plusieurs sortes de marchés, et il était prudent le soir d'y entrer avec un revolver. Leur madame nous aimait beaucoup, Samuel Archmet et moi. C'était ordinairement elle qui préparait à manger à mes deux amis, leurs affaires les retenant souvent dans ses quartiers. Leur madame était remplie pour nous d'attention maternelle. Il y avait au premier, chez leur madame, un petit cabinet et un coffre qui me servaient au changement de décor. J'entrais en vêtements européens par la grande porte et je sortais en turc par l'impasse. Leur madame était italienne. Ayoub, 20 janvier. Hier finit en queue de rat la grande facétie internationale des conférenciers. La chose ayant raté, les excellences s'en vont, les ambassadeurs aussi plient bagages, et voilà les Turcs hors la loi. Bon voyage à tout ce monde. Heureusement, nous, nous restons. Ayoub en est fort calme et assez résolu. Dans les cafés turcs, le soir même, dans les plus modestes, se réunissent indifféremment les riches et les pauvres, les pachas et les hommes du peuple. Ô égalité, inconnue à notre nation démocratique et à nos républiques occidentales. Un érudit est là qui déchiffre aux assistants les grimoires des feuilles du jour. Chacun écoute avec silence et conviction. Rien de ces discussions bruyantes à l'aile ou à l'absinthe qui sont d'usage dans nos estaminets de barrière. On fait à Ayoub de la politique avec sincérité et recueillement. On ne doit pas désespérer d'un peuple qui a conservé tant de croyances et de sérieuse honnêteté. Aujourd'hui, 22 janvier, les ministres et les hauts dignitaires de l'Empire réunis en séance solennelle à la sublime porte, ont décidé à l'unanimité de repousser les propositions de l'Europe sous lesquelles ils voyaient passer la griffe de la Sainte Russie. Et des adresses de félicitations arrivent de tous les coins de l'Empire aux hommes qui ont pris cette résolution désespérée. L'enthousiasme national était grand dans cette assemblée où l'on vit pour la première fois cette chose insolite, des chrétiens siégeant à côté de musulmans, des prélats arméniens à côté des derviches et du cheikh ou l'islam, et où l'on entendit pour la première fois sortir de bouche mahométane cette parole inouïe « nos frères chrétiens ». Un grand esprit de fraternité et d'union rapprochait alors les différentes communions religieuses de l'Empire ottoman en face d'un péril commun, et le prélat arménien catholique prononça dans cette assemblée cet étrange discours guerrier. « Effendi, les cendres de nos pères à tous reposent depuis 5 siècles dans cette terre de la patrie. Le premier de tous nos devoirs est de défendre ce sol qui nous a échu en héritage. La mort a lieu en vertu d'une loi de nature. L'histoire nous montre de grands états qui ont tour à tour paru et disparu dans la scène du monde. Si donc les décrets de la Providence ont fixé le terme de l'existence de notre patrie, nous n'avons qu'à nous incliner devant son arrêt. Mais autre chose est de s'éteindre honteusement ou de faire une fin glorieuse. Si nous devons périr d'une balle meurtrière, ne renonçons donc pas à l'honneur de la recevoir en pleine poitrine et non dans le dos. Au moins alors le nom de notre pays figurera glorieusement dans l'histoire. Naguère encore, nous n'étions qu'un corps inerte. La charte qui nous a été octroyée est venue vivifier et consolider ce corps. Aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes invités à ce conseil. Grâces en soient rendues à Sa Majesté le Sultan et au ministre de la Sublime Porte. Désormais, que la question de religion ne sorte pas du domaine de la conscience. Que le musulman aille à sa mosquée et le chrétien à son église. Mais en face de l'intérêt de tous, en face de l'ennemi public, soyons et demeurons tous unis. Aziyadeh, qui était fidèle à la petite babouche de maroquin jaune des bonnes musulmanes, sans talons ni dessous de pied, en consommait bien 3 paires par semaine. Il y en avait toujours de rechange, traînant dans tous les coins de la maison, et elle écrivait son nom dans l'intérieur, sous prétexte que Ahmed ou moi pourrions les lui prendre. Celle qui avait servi était condamnée à un supplice affreux, lancée dans le vide la nuit du haut de la terrasse et précipitée dans la corne d'or. Cela s'appelait le courbement des papouches, le sacrifice des babouches. C'était un plaisir de monter par les nuits bien claires et bien froides dans le vieil escalier de bois qui craquait sous nos pas et nous menait sur les toits, et là, au beau clair de lune, Maïtabda, après nous être assuré que tout sommeillait à la tour, de consommer le courban et de faire pirouetter dans l'air, une par une, les babouches condamnées. Tombera-t-elle dans l'eau, la papouche, ou sur la vase, ou bien encore sur la tête d'un char maraude? Le bruit de sa chute dans le silence profond indiquait lequel de nous deux avait deviné juste et gagné le pari. Il faisait bon être là-haut, si seul chez nous, si loin des humains, si tranquille, souvent piétinant sur une blanche couche de neige et dominant le vieux Stamboul endormi. Nous étions privés, nous, de jouir ensemble de la lumière du jour dont jouissent tant d'autres qui s'en vont ensemble bras dessus, au grand soleil sans apprécier leur bonheur. Là-haut était notre lieu de promenade. Là, nous allions respirer l'air pur et vif des belles nuits d'hiver, en société de la lune, compagnie discrète qui tantôt s'abaissait lentement à l'ouest sur les pays des infidèles, et tantôt se levait toute rouge à l'orient, dessinant la silhouette lointaine de Scutari ou de Péra. Est-ce la fin, Seigneur, ou le commencement? Victor Hugo, Chant du crépuscule. L'animation est grande sur le Bosphore. Les transports arrivent et partent, chargés de soldats qui s'en vont en guerre. Il en vient de partout, des soldats et des rétifs, du fond de l'Asie, des frontières de Perse, même de l'Arabie et de l'Égypte. On les équipe à la hâte pour les expédier sur le Danube ou dans les camps de la Géorgie. De bruyantes fanfares, des cris terribles en l'honneur d'Allah, saluent chaque jour leur départ. La Turquie ne s'était jamais vue tant d'hommes sous les armes, tant d'hommes si décidés et si braves. Allah sait ce que deviendront ces multitudes. Ayoub, 29 janvier 1877. Je n'aurais pas pardonné aux excellences leur pasquinade diplomatique si elles avaient dérangé ma vie. Je suis heureux de me retrouver dans cette petite case perdue qu'un instant j'avais eu peur de quitter. Il est minuit, la lune promène sur mon papier sa lumière bleue, et les coqs ont commencé leur chanson nocturne. On est bien loin de ses semblables à Ayoub, bien isolé la nuit, mais aussi bien paisible. J'ai peine à croire souvent que Arif Effendi, c'est moi. Mais je suis si las de moi-même depuis 27 ans que je me connais, que j'aime assez pouvoir me prendre un peu pour un autre. Aziyadeh est en Asie, et elle est en visite avec son harem dans un harem d'Ishmit et me reviendra dans 5 jours. Samuel est là, près de moi, qui dort par terre dans un sommeil aussi tranquille que celui des petits-enfants. Il a vu dans la journée repêcher un noyer, lequel était, il paraît, si vilain, il lui a fait tant de peur que par prudence il a apporté dans ma chambre sa couverture et son matelas. Demain matin, dès l'aubette, les rédifs qui s'en vont en guerre feront tapage et il y aura foule dans la mosquée. Volontiers, je partirai avec eux, me faire tuer aussi quelque part au service du sultan. C'est une chose belle et entraînante que la lutte d'un peuple qui ne veut pas mourir. Et je sens pour la Turquie un peu de cet élan que je sentirais pour mon pays s'il était menacé comme elle et en danger de mort. Nous étions assis, Ahmed et moi, sur la place de la mosquée du sultan Selim. Nous suivions des yeux les vieilles arabesques de pierre qui grimpaient en se tordant le long des minarets gris et la fumée de nos chibouks qui montait en spirale dans l'air pur. La place du sultan Selim est entourée d'une antique muraille dans laquelle s'ouvrent de loin en loin des portes ogivales. Les promeneurs y sont rares et quelques tombes s'y abritent sous des cyprès. On est là en bon quartier turc et on peut aisément s'y tromper de 2 siècles. Moi, disait Ahmed d'un air frondeur, je sais bien ce que je ferai, Loti, quand tu seras parti. Je mènerai joyeuse vie et je me griserai tous les jours. Un joueur d'orgue me suivra et me fera de la musique du matin jusqu'au soir. Je mangerai mon argent, me ça m'est égal. Zarariok. Je suis comme Aziyadeh, quand tu seras parti, ce sera fini aussi de ton Ahmed. Et il fallut lui faire jurer d'être sage, oh, ce qui ne fut point une facile affaire. Veux-tu, dit-il, me faire aussi un serment, le petit? Quand tu seras marié et que tu seras riche, tu viendras me chercher et je serai là-bas ton domestique. Tu ne me paieras pas plus qu'à Istanbul, mais je serai près de toi et c'est tout ce que je demande. Je promis à Ahmed de lui donner une place sous mon toit et de lui confier mes petits-enfants. Cette perspective d'élever mes bébés et de les coiffer en fez suffit à le remettre en joie, et nous perdîmes toute la soirée en projet d'éducation basé sur des méthodes extrêmement originales.